Bonjour Raphaël Bido-Wellington.
Bonjour Dominique.
Merci de me recevoir. Nous parlons du futur tome 12 que je tiens en face de moi, que les auditeurs ne pourront pas trouver en librairie. C'est signé Pecklers Paris. C'est là, Raphaël, où tu es intervenu dans ce livre, dans l'écriture de ce livre qui ressemble, alors je le décris un petit peu, qui ressemble à un classeur. C'est un classeur, en fait. Futur... entre parenthèses au pluriel avec un S, c'est le tome 12, comme 2012, il y en a un par année, Pecklers Paris. Ma première question, c'est quoi ce livre qu'on ne trouve pas en librairie, qui est un livre de presque de futurologie, en tout cas qui s'intitule Futur, et c'est quoi Pecklers Paris?
Alors, Pecklers Paris, c'est une agence qui existe depuis une quarantaine d'années, qui est considérée comme une des plus vieilles maisons de tendance et de prospective. Donc, c'est une agence qui conseille tout un ensemble d'entreprises pour définir quels sont les produits et les services de demain. En plus de ce travail de consulting, ils ont une publication annuelle, donc qui est le Futur, qui est une analyse plus prospective et plus fondamentale qui visite un petit peu les grands mécanismes de transformation de la société et de la globalisation. Donc c'est leur publication plus prospective que tendance et qui est le résultat d'un travail collaboratif dans une équipe de recherche dont je fais partie avec des gens qui ont des parcours assez divers et variés et qui est produit tous les ans en début d'année et qui est ensuite vendu à des grands décideurs économiques de par le monde. Donc ça va entre les mains des directeurs de la prospective et l'innovation chez Sony en passant par la mode, en passant par le sport. Donc ça touche un peu tous les segments du monde économique et en même temps, c'est un ouvrage qui est beaucoup plus qui pourrait s'adresser également à des décideurs politiques. C'est pas spécialement leur cible, mais ce travail-là a vraiment une dimension de vision prospective de la société de manière plus large. Alors cette publication, alors Pecklers a une méthode bien définie qui s'appelle, pour les gens qui connaissent les méthodes de prospective, donc la prospective, hein, c'est la science, c'est la discipline qui étudie la fabrication du futur en fait. Donc, Pecklers a une méthode assez bien définie qui s'appelle la méthode des signaux faibles. La méthode des signaux faibles en prospective, ça veut dire que on s'appuie sur un certain nombre d'éléments d'information qui ont été repérés dans le panorama de la société et qu'on estime être des signes avant-coureurs de choses qui vont se confirmer à l'avenir. Donc c'est plutôt l'idée de bourgeons comme ça, de petites choses qui sont naissantes, qu'on détecte dans leur état encore de balbutiement et qui vont se traduire par des grands phénomènes de société dans les années qui viennent. Donc en fait, Pecklers, c'est d'abord un espèce d'observatoire à 360 degrés de la société, donc avec des ressources documentaires, de bureaux d'études, d'analyses statistiques, de médias, de magazines, de publications, de conférences, enfin vraiment, il y a un réseau c'est un pôle de recherche qui se nourrit d'une quantité de sources assez vertigineuses. Pecklers organise également des tables rondes et des workshops avec des gens qui sont considérés comme les plus précurseurs dans leur domaine. Donc à l'inverse de la recherche universitaire qui s'appuie sur des publications déjà validées, Pecklers s'intéresse à des tonnes de choses tous azimuts. Et ensuite, la fabrication de cette publication future s'appuie sur un travail de tri, de mise en ordre de ces centaines de données et d'informations. Donc, l'équipe à laquelle j'appartiens, donc moi, je travaille avec Pecklers uniquement sur cette publication. Hein. Je ne fais pas partie intégrante des équipes. Je travaille avec eux sur cette publication. C'est d'abord trier ces informations, voir quels sont les grands courants qui en sortent et puis avec comme point de repère comme ça quatre valeurs clés qui est la méthode Pecklers, qui est celle de l'hédonisme, de la place de la nature et du naturel dans la société, de l'impact des technologies et du monde technologique, et ensuite un quatrième volet qui est une réflexion sur quels sont les imaginaires qui se cachent derrière tout ça. Donc ça ce sont un peu des espèces de valeurs clés qui permettent de mettre de l'ordre dans ce grand panorama d'informations. Et à la suite de cette, voilà, de cette mise en ordre, chaque année, il y a trois grands thèmes qui se dessinent. Donc, l'année dernière, en 2011, les trois grands thèmes, c'était le thème de transévolution, de extension et de eunomia. Et cette année, les trois grands thèmes qui sont apparus comme ça, qu'on a distingués, c'est le premier thème, c'est Kaoïsme, que moi, j'ai pris particulièrement en charge. Il y avait un deuxième thème qui s'appelait activation et un troisième thème qui s'appelle universalisme. Donc, en fait, dans, dans ce travail d'analyse prospective, le jeu il y a toute une créativité comme ça, sémantique autour des informations. Et donc, on voit bien combien, en fait, cette analyse prospective, elle est autant comprendre des choses que projeter dessus toute une interprétation créative qui leur donne du sens. Mais donc, c'est vraiment pas de la science. Et Pekler's ne se présente pas comme un institut de recherche scientifique. C'est vraiment, même justement, ils ont tendance à cultiver aussi l'effet, voilà, c'est Pekler's vend son intuition créative de manière un peu générale. Donc c'est très très intéressant de rentrer dans dans ce processus qui est quand même assez structuré. Et alors quand on ne connaît pas ce monde-là et qu'on voit ça d'un peu de loin, on se dit bon, c'est un peu du gros n'importe quoi. En même temps, quand on rentre dans le raisonnement et l'interprétation de ces signes, il y a vraiment des choses flagrantes. Et entre ce qu'on a écrit en début d'année et puis l'année qui vient de s'écouler, je peux vraiment voir aussi des choses qui se sont vraiment traduites dans la société, des thèmes qui sont vraiment récurrents, qui deviennent complètement à la mode. Donc y a quelque chose d'assez vertigineux en fait dans la réalisation de ces tendances.
Alors on va le parcourir, cet ouvrage Futur 2012. Il est en bilingue, français-anglais. Trois grandes parties pour celui-ci, chaosisme, activation, universalisme, et ensuite un plan qui se découpe généralement, qui se découpe en trois ou en deux parties. Pour donc chaosisme, la partie dont tu t'es occupé, Raphaël, il y a extravaganza, première partie. Deuxième partie, compositionnisme. Troisième partie, exit. Alors, on va parcourir ces trois sous-parties de cette grande partie, première grande partie, chaosisme. Alors, vous pouvez pas voir ce livre-là. Il n'est pas accessible, il n'est pas sur Internet, il n'est pas en librairie. Quand on le parcourt, il y a une introduction. Il se parcourt. Donc, c'est un classeur. On tourne les feuilles. Première page, celle de droite, généralement 4 à 5 ou 6 ou 7 photos ou couvertures. Et page de gauche, un petit texte sur les concepts et une légende pour chacune des images.
Alors oui, c'est ça. Donc le principe de l'analyse s'appuie sur donc toujours des signes émergents. Ces signes émergents sont rassemblés par ensemble de signes et ces ensembles de signes définissent une thématique. Le cahier se présente toujours sous la forme d'ensemble d'éléments d'information. Alors ces informations, ça peut être un film, ça peut être une publication, ça peut être le thème d'une grande exposition, ça peut être un artiste qui a marqué l'année, ça peut être un événement politique, ça peut être il y a une hétérogénéité dans les sources de ces signes, sachant que il y a quand même un parti pris de toujours s'intéresser à tout ce qui vient du monde de l'art et de la culture, parce que Pekler's a quand même cette originalité d'être très de vraiment considérer que la sphère artistique la sphère artistique et créative comme un lieu dans lequel se préfigurent et s'annoncent des choses qui vont influencer la société de consommation de manière plus large. Donc on a des exemples de films, d'expositions, de grandes biennales de design, ça peut être aussi les conférences TED, ça peut être un bouquin d'un chercheur ou d'un penseur. Donc les exemples qui sont cités sont très hétérogènes. Et ensuite, il faut donner du sens et construire un raisonnement. Donc en fait, l'exercice, c'est... Donc je peux par exemple expliquer un petit peu comment la partie Kaoïsme a été... c'est celle que j'ai particulièrement régulièrement réalisé moi-même, donc je peux expliquer le raisonnement de cette partie. Donc, Kaoism, l'idée, c'était, le point de départ, c'était devant cette, aujourd'hui, la prolifération, il y a vraiment comme ça quelque chose qui est revenu tout au long de nos observations, qu'il y a vraiment une espèce de prolifération d'informations qui atteint des degrés. L'année dernière, on a vu pas mal d'articles qui parlaient du data déluge, par exemple, des choses comme ça, où il y a une surinformation, une surinflation de tout, avec la crise économique, les crises environnementales, on a une espèce de sentiment de perte de sens, qui se traduit par... c'est pas forcément que c'est le chaos, mais en tout cas, il y a un sentiment de chaos dans la société, un sentiment de chaos aussi de fin du monde, cette idée de fin du monde comme ça, avec l'année 2012, avec le calendrier Maya qui était censé annoncer cette fin d'une ère. Donc voilà, le chaosisme, c'était cette idée qu'il y a un sentiment du chaos dans la société et que ce sentiment de chaos donnait lieu à différents types de réactions. Et donc les trois sous-thèmes de cette partie chaosisme sont en fait trois variations, trois types de manières de réagir et d'aller chercher d'autres espèces de solutions, des alternatives qui seraient des manières de répondre à ce sentiment de chaos. Donc chaosisme, c'est le mécanisme lui-même de l'impact de ce sentiment de chaos dans la société. Et ensuite, réaction concrète dans la société, c'était... Le premier volet, ça a été de dire qu'une alternative au chaos, c'est de renchérir sur le chaos. Donc, c'est la partie qu'on a appelée extravaganza. C'est-à-dire que tout devient gigantesque, tout devient proliférant, tout devient... Donc, si on veut jouer avec ce chaos, il y a une espèce d'incitation à en rajouter, à être encore plus fou que la folie, et donc d'aller une affirmation des identités très prononcée, d'aller dans le gigantesque, des formes. Donc voilà, le premier courant, c'est donc ce qu'on a appelé l'extravaganza, avec une espèce de surenchère à la déconnade, à la liberté de geste, à la surdimension. Donc extravaganza, c'est on profite du sentiment de chaos et du mouvement du chaos. Un deuxième courant comme ça de réaction à ce sentiment de chaos, c'est de dire, eh bien, on ne sait pas tout, on ne peut pas tout maîtriser, donc on trouve d'autres manières de composer avec ce chaos. Et là, il m'a semblé intéressant de convoquer les théories de Bruno Latour, avec qui a cette approche de proposé il y a déjà 2-3 ans son manifeste compositionniste, et qui est vraiment basé sur cette idée que, eh bien, plutôt qu'être dans la certitude et la connaissance, il faut être dans une étude d'expérimentation pour composer avec le monde, un monde que l'on ne maîtrise pas, et où la science arrête d'avoir la prétention de cerner le monde. Et donc, il me semblait que dans cette idée de composer avec le chaos, il fallait parler de Bruno Latour, qui me semblait être quelqu'un qui, justement, s'est très bien montré comment le désir de tout maîtriser et de comprendre, et notamment les enjeux de la science, doivent être également repensés face à l'infini de l'univers, des usages sociaux, des modes de vie, et que les grandes cloisons, les grandes disciplines et les grandes pensées conventionnelles étaient un peu caduques. Donc, compositionniste, deuxième partie. Donc, plus nouvelle forme d'intelligence, on va chercher dans le passé pour réinventer l'avenir, on trouve des modes de travail entre le web, entre la vie réelle, on retisse des liens entre le virtuel et le réel. Enfin, voilà, donc c'est vraiment toute cette partie-là de compositionniste, un peu nouvelle forme d'intelligence, avec aussi, du coup, le rôle des artistes et des créateurs et des écrivains deviennent des fabricants d'hypothèses du futur, hein. Donc, je t'ai cité mon cher Dominique dans ce cahier, avec ta théorie du fictionnaire. Et puis ensuite, troisième volet, dans ce cahier, la partie s'appelle Exit. Donc, là, c'est quand même, la situation, le sentiment de chaos, c'est quelque chose qui incite à une extravaganza, qui convoque des nouvelles formes d'intelligence, mais qui crée aussi un sentiment de perdition. C'est-à-dire que, voilà, il y a aussi tout un ensemble d'acteurs de la société qui en souffrent. et qui, voilà, qui sont dans un sentiment de fin de monde, de tristesse, de mélancolie, de perte de sens, de dérive, d'une certaine désolation comme ça, justement de fin du monde. Donc il y a quelque chose, il y a une espèce de tristesse implicite qui se cache derrière ce chaos, et donc une manière de répondre en fait à ce sentiment de mélancolie qui est très qui est la face cachée, la face obscure de ce processus de chaos et d'éclate, de grande éclate. C'était un terme qu'on avait aussi pas mal retenu. Donc dans Exit, c'est une manière, c'est de montrer comment aussi le sentiment de mélancolie peut donner lieu à aussi une forme de célébration de la mélancolie, donc avec des idées de tristesse contemporaine comme ça. Donc eh bien on ne sait pas où va le monde, eh bien faisons la fête et célébrons la mélancolie, et avec un art de la célébration et de l'obscur, avec un appel des sociétés secrètes, avec le désir d'aller chercher des territoires plus obscurs, mais dans lequel finalement on retrouve un certain plaisir à exister. Et donc c'est vraiment l'art de la mélancolie avec ce... Donc il y avait aussi cette idée d'aller chercher des mondes parallèles. Donc il y a le terme de dystopie aussi, c'était un terme assez présent. Donc les univers dystopiques, ce sont des univers... À l'inverse, l'utopie, on cherche à fabriquer des mondes idéaux avec portés par un bonheur partagé par tous. Les univers dystopiques, c'est plutôt des univers parallèles dans lesquels on essaye de reposer des problématiques, et c'est souvent des univers très complexes qui permettent de réinterroger le réel via des mondes fictifs. Donc là, voilà, la partie, le troisième courant comme ça, le troisième type de réaction et de comportement et d'impact d'action dans la société, c'était de parler de cet exit et de ces mondes dystopiques comme un refuge, un repli, une manière de célébrer l'existence dans sa noirceur et aussi de retrouver le plaisir de l'imagination par ces mondes dystopiques. Voilà.
Alors, quand on regarde les pages, il y a aussi des matériaux qui sont collés dessus, des matériaux innovants. Donc c'est aussi un livre où voilà, il y a des matières qui sont montrées, des matières un peu inédites. Comment est-ce que tu as une idée, Raphaël, de comment est utilisé après ce livre-là, Futur 2012 de Peklers, par les entrepreneurs?
Alors en fait, il y a un processus par étapes. Donc là, moi, j'ai parlé vraiment vraiment de l'analyse de fond. Ensuite, à partir de cette analyse, on fait quelque chose qu'on appelle l'évolution des valeurs. On essaye de comprendre quelles sont les transferts, quelles nouvelles valeurs ces tendances véhiculent, vers quoi les choses vont. Donc à partir de ces évolutions de valeurs, ensuite l'agence a une équipe de designers qui va chercher un petit peu des exemples d'applications plus concrètes qui permettent de rendre compte qui donnent des exemples comme ça de traductions concrètes en produits et en services de ces grandes tendances. Et en fait, ça n'est qu'une première base, donc avec par exemple des nouveaux matériaux qui seraient particulièrement symptomatiques de ces nouvelles attentes. Et en fait, c'est cette partie concept créatif, elle est plus là pour faire le lien et amorcer donner un petit peu des pistes pour les entreprises qui ont ce cahier en main et qui elles s'en servent pour faire évoluer leur offre de services et de produits. Et en fait, en général, il y a en fait c'est les entreprises qui achètent cette publication sont aussi souvent des clientes de l'agence, et donc après l'agence les prend un peu par la main pour appliquer, mais ensuite il y a des entreprises qui sont des clientes récurrentes et qui savent très bien se servir de ce cahier, qui ont trouvé leur manière à elles de le faire. Il y a aussi tout un ensemble de présentations publiques, de présentations du cahier à l'oral. Ça peut se traduire par des workshops, des séances d'innovation. Enfin bon, après, il y a tout un... Et chaque entreprise bricole un peu à sa façon. C'est là qu'on voit le caractère très empirique, en fait, de la manière... Les entreprises ont tout un peu leur manière de travailler et d'expérimenter des choses. Donc ça, je connais moins cette partie parce que je ne suis pas spécialement en contact avec eux. Moi, je suis vraiment dans la partie amont. Voilà.
Et alors, comment s'inscrit ce livre? Pourquoi tu participais de cette expérience? Puisque tu es une artiste, mais une artiste qui travaille sur des concepts tels que l'intelligence esthétique, le laboratoire d'ingénierie d'idées, qui réalise également des audits esthétiques. C'est-à-dire que tu es très proche de l'entreprise, tu es une artiste entrepreneuse. Comment ça s'insère dans ton travail artistique à toi, la contribution à ce livre?
Alors, ce travail, oui, s'inscrit dans ce que j'appelle le laboratoire d'ingénierie d'idées. Donc, en effet, moi, j'ai un parcours quand même assez atypique parce que j'ai travaillé dans la finance avant d'être artiste. Donc, j'ai un bagage comme ça assez peu conventionnel. Et donc, en tant qu'artiste, j'ai créé en 2000 un truc qui s'appelle le laboratoire d'ingénierie d'idées, justement parce que ça m'a intéressé de pouvoir faire des expériences et de voir comment mon imaginaire artistique et créatif, mais aussi chargé de beaucoup de connaissances du monde économique, d'une passion pour les enjeux urbains. J'étais toujours quelqu'un comme ça qui se gavait de connaissances, avec une curiosité un peu tous azimuts. Et donc, il m'a semblé qu'en tant qu'artiste, je pouvais, au-delà de ma production d'œuvres d'art et de mes expositions, aussi proposer mon intelligence esthétique à des structures qui n'étaient pas spécialement des structures artistiques, mais qui pouvaient avoir besoin d'enrichir leurs pratiques de réflexion créative, critique, prospective. Moi, je me présente comme tête chercheuse créative. Prospective, critique, j'utilise un peu comme ça cette palette de mots. L'intelligence esthétique, c'est un terme que j'ai défini en que j'ai en fait dès 2000, comme ça, il me semblait qu'il fallait que j'aie un peu mon jargon à moi pour me distinguer des autres. Et j'ai utilisé ce terme d'intelligence esthétique pour couper court à tout ce que je pouvais déjà anticiper, c'est-à-dire les agences qui veulent que vous, les entreprises qui voudraient faire de la décoration dans leur bureau, les entreprises qui voudraient faire un événementiel de communication. Voilà, j'ai coupé court à tout ça en disant, moi j'interviens avec mon cerveau d'artiste, mon regard sur le monde, mes connaissances, donc je viens avec mon intelligence esthétique. Voilà, après, est-ce que c'est exactement, je ne sais pas. Justement, là, il y a 2 ans, j'ai lancé un aspect. Donc avec mon laboratoire d'ingénierie d'idées, je développe aussi des programmes de recherche par moi-même. Donc j'interviens dans ceux des autres, mais j'ai les miens aussi. Et en 2010, j'ai lancé un petit programme de recherche qui s'appelle le Polygone, dans lequel justement je reviens sur ce concept d'intelligence esthétique que j'ai utilisé de manière très pratique comme ça, comme une manière d'avoir un statement assez clair en disant non, me demandez pas de faire de la décoration, je vais venir avec mes connaissances et puis je vais vous en je, voilà je, il va se passer beaucoup de choses de manière plus conceptuelle et intellectuelle que formelle. Et puis aujourd'hui, il me semble que ça peut être intéressant de pousser un peu ce terme et de voir dans quelle mesure il rejoint d'autres problématiques intellectuelles, scientifiques, philosophiques. Ce terme a aussi fait tilt dans l'oreille de pas mal des mille et un collaborateurs que j'ai pu avoir au gré de mes projets. Et donc l'intelligence esthétique, voilà, c'est un espèce de concept clé que j'ai utilisé de manière complètement stratégique pour valider comme ça une position artistique d'une nouvelle génération où la connaissance et l'intelligence est aussi importante que la production. Donc cette approche comme ça, c'était une manière aussi de dire, bon, bah voilà, on est dans une société où l'art doit redéfinir sa place. Il me semble qu'en tant qu'artiste, il faut toujours s'interroger de où on est vis-à-vis de l'histoire de l'art, où on est par rapport à la société, où on est par rapport au mécanisme même de l'industrie de l'art qui est elle-même complètement en crise et qui depuis une vingtaine d'années ne sait plus très bien, plus personne ne s'aventure à donner une définition de l'art. Et comme moi, j'étais quelqu'un d'un peu comme ça, à la fois complètement très gonflé et avec une approche complètement de biais et à la fois complètement autodidacte. Moi, je me présente aussi comme self-made artist, comme ça en jouant sur le jargon de l'entrepreneur qui s'est fait tout seul. Moi, je suis une artiste qui s'est faite toute seule. Donc, je me suis dit, bah moi, avec mon petit laboratoire, je vais proposer une alternative à l'art d'aujourd'hui, en parlant d'intelligence esthétique, en parlant en montrant qu'on peut faire vivre une pensée artistique de plein de manières différentes, un peu comme l'économie est devenue une économie de l'immatériel, et que l'économie n'est plus simplement une sphère de production, mais aussi une sphère de création. Donc voilà, c'était l'espèce de recoupement comme ça entre des regards sur le monde économique, des regards sur le monde artistique, des regards sur le monde de la connaissance également, parce qu'il me semblait que les grandes disciplines étaient plus tout à fait valides. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que j'ai développé cette idée d'ausculter les organisations. Donc les organisations d'abord économiques, mais aussi urbaines et universitaires, comme des structures qui créent. Et de fait, je me suis dit, bah moi, je vais proposer des audits esthétiques qui vont être une espèce d'analyse critique et créative de ces organisations où j'estime qu'elles sont créatrices de quelque chose, elles ont une intention, elles disent quelque chose, et donc on peut les ausculter de cette manière-là. Et donc, toujours dans mon laboratoire d'ingénierie d'idées, je propose des audits esthétiques. Donc, ça m'intéresse d'expérimenter des choses à la fois à la croisée des différents territoires. Et puis en fait, là depuis 3-4 ans, je dirais, je suis maintenant invitée dans de nombreux programmes de recherche universitaire à venir présenter mes expérimentations, mes méthodologies, parce que en fait, finalement, tout ça rejoint les problématiques les plus avancées de différentes disciplines, notamment l'économie, mais aussi les enjeux artistiques et aussi les enjeux urbains. Donc j'aime beaucoup cet aspect-là. Donc mon laboratoire d'ingénierie d'idées qui se présentait comme un petit think tank créatif, en fait aujourd'hui j'estime que c'est comme un pôle de production de connaissances par l'art. Et donc les collaborations avec Pécler, ça fait partie des dossiers comme ça, des dossiers en cours. Voilà.
Merci beaucoup, Raphaël Bideau-Wellington, d'avoir répondu à mes questions.
Merci Dominique, à très bientôt.